Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures de bonne humeur au triple galop sur l'étalon fougueux du savoir avec Eva Rock en Amazon qui me donne des petits coups de cravache quand je ralentis. Eva, ma complice de... Ou des gros, comme vous voulez. Ma complice de toujours, ma Calamity Jane, qui chaque jour s'acquitte d'une double mission. Nous guider dans la jungle des écrans pour nous dire ce qu'on va regarder ce soir. Et, très important, mettre notre invité d'honneur à l'aise d'entrée. Il y a une des deux missions qu'elle réussit bien, l'autre,
ça y est.
Un peu moins, comme on a pu le constater encore hier lors des toutes premières secondes de notre émission avec Chaim, la chanteuse devenue actrice pour une série de TF1. Alors que je lui confiais l'avoir trouvée très bonne pour ses débuts devant la caméra, Eva a tenté d'abonder en mon sens, mais comment dire, elle n'a pas trouvé les mots les plus flatteurs. Et ce sont vos grands débuts en tant que comédienne ?
Grand, je sais pas, vous me direz, mais en tout cas, ce sont les débuts.
Et on peut vous dire que c'est très réussi, ce
programme. Ah bah c'est même étonnant.
Aujourd'hui, vous savez quoi,
c'est
Emma,
que vous n'ayez pas repris.
Laissez-moi,
hier, quand je l'ai dit, ouais.
Laissez-moi présenter l'invité tout seul, hein, comme ça on ne perd pas d'entrée. Vous connaissez Brut, mais connaissez-vous Brut ? Eh bien, Brut est à Brut ce que le Gorafi est au Figaro, une parodie savoureuse. Et Bertrand Huskla, notre invité, est à Xavier Bertrand ce que Bertrand Cantat. Non, là je m'en mets les pinceaux, je ne trouve pas d'issue à cette phrase. Bref, bonjour Bertrand Huskla.
Bonjour, bah merci. On a failli aller au crash.
On a failli d'entrée de jeu, cette fois par ma faute. Comédien, auteur, vous êtes à l'origine de Brut et on vous retrouve dans la saison 2 de l'excellente web-série d'Arte. Il revient quand, Bertrand, disponible depuis hier. Comment vous présenteriez votre univers à quelqu'un qui ne vous connaît pas, ce qui était mon cas, honte à moi, hier?
Waouh, quelle honte. Mais maintenant, je suis là, on peut réparer les trucs.
Ouais.
Alors comment je me présenterais comme un comédien qui vire vers l'humoriste cynique? Et comme dirait Bernanos, le cynisme, c'est de l'espoir froid. Bam !
C'est
mon entrée.
Oh là là, le niveau culturel de l'émission a fait un bond prodigieux.
C'est le seul truc que je connais de Bernanos.
Ça sera la seule citation de Bernanos de l'émission.
Bien entendu.
On va parler de vous, on va parler de Il revient quand, Bertrand. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition aujourd'hui. Puisque vous le savez peut-être, chaque après-midi, les meilleurs journalistes de la station s'étripent au service de votre culture G. Un seul héritera de cette précieuse couronne en carton de chroniqueur du jour, signe qu'on a encore moins de budget que sur Arte, ce qui n'est pas peu dire. Face à vous, Bertrand, un garçon qui est pour moi plus qu'un collègue, un ami. Je me souviens encore de ses derniers mots samedi après une formidable soirée team building.
On est bien là tous ensemble sous la douche ?
Non, ces derniers mots habillés. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, salut à tous.
Sous la douche, vous êtes un homme pragmatique, mais dans la vie, vous êtes un philosophe. Et aujourd'hui, vous posez une question vertigineuse. Comment photographier le temps qui passe?
Oui, à se demander d'ailleurs si les réseaux sociaux sont pas en train de se transformer en gigantesque album de famille. Je vous parlerai d'une série de photos géniales qui est sortie dans le New Yorker. Ce sont des parents qui disent au revoir à leur fille devant la maison. Ça a l'air tout bête, mais c'est hyper émouvant.
Et c'est un sujet radiophonique par excellence.
Oui. Mais oui, le talent.
À ses côtés, Bertrand Huskla, dans une de vos vidéos, vous avez ce résumé cinglant.
Avant, j'étais un connard en voiture. Et ben maintenant, je suis un connard à vélo.
En Paris. Je vous présente Anne Le Gall.
Ah,
oui, Anne Le Gall, notre collègue écolo, végano, paléo, décroissante, tout ça. Spécialiste environnement d'Europe 1, bonjour.
Bonjour à tous.
Avec quel sujet allez-vous tenter de remporter les 3 points aujourd'hui, Anne? Sachant que vous êtes 3e du championnat, maintenant j'ai vu, moi je pensais que vous étiez toujours première, vous avez décroché.
Ouais, j'ai un petit peu décroché. Alors, je vais faire de l'espoir chaud. Vous aimez l'espoir froid, moi je fournis l'espoir chaud. De l'optimisme. Je vous vante souvent les vertus des forêts pour lutter contre le réchauffement climatique, contre la pollution. Là, je vais vous vanter les vertus des arbres pour réussir ces examens. Il y a une étude américaine qui vient de prouver que ça améliore les capacités du cerveau de fréquenter des arbres, d'où la présence de ce yucca en studio. Ça nous fait du bien à tous, à tous nos cerveaux, d'avoir
je
ce yucca aujourd'hui.
Je me sens déjà plus intelligent. Jean-Philippe Ballas, déjà une première remarque.
On a le droit aux accessoires pour la chronique,
oui.
Parce que là le Lucas, je sais pas s'il est réglementaire.
C'est un premier point.
Il me gratte un peu.
C'est un point de règlement que nous éclaircirons. Voilà pour le programme, l'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Bertrand Huskla qui nous accompagne cet après-midi pour vous présenter ce garçon plein d'avenir, son univers, son travail, satire habile de notre société. J'aurais pu sélectionner une des centaines de ses pastilles pour Brut ou un extrait brillant de Il revient quand, Bertrand, qui aurait mis en avant la justesse de son jeu d'acteur ou la finesse de son écriture. Mais à la place, j'ai choisi...
Elle ! C'est ma bite !
C'est pas possible.
Je la porte comme un étendard quand je fais les courses chez Casto. Je l'aime ! C'est ma bite.
Je suis taquin, enfin, plus de 2 millions de vues, hein, 2 200 000 vues.
C'est vous qui chantez, Bertrand Huskla, il faut
préciser. C'était
hein.
Les débuts, hein. C'était pré-MeToo, il y a un contexte.
C'était pré-MeToo, mais en plus là je suis taquin parce que c'est une chanson qui dénonce en fait évidemment le machisme, la phallocratie dans laquelle nous vivons encore à bien des égards, puisque soudain, et c'est tout le génie de cette chanson, à un moment surgit une fille qui dit
« Elle, c'est
c'est Macha.
Bah, je fais une chanson sur Macha.
Ça va pas, non ?
Malade. Bah, vous faites bien une chanson sur votre bite, tu vois pas pourquoi moi je pourrais pas.
Bah, parce que t'es.
C'est vulgaire.
T'es vulgaire.
Oui, c'est vulgaire. Bertrand Hucelage, je crois que c'était vos débuts, mais ça résume un peu votre esprit quand même.
C'est un petit peu ça, ouais, c'était un truc assez premier degré. En fait, ce qui fait beaucoup rire avec cette vidéo, c'est qu'il y avait des gens à l'époque qui l'avaient partagé et qui n'avaient pas forcément compris le message. Donc on avait des espèces de photos d'équipes de rugby, des vidéos qui chantaient « C'est ma bite !» Les gars, vous êtes à côté. Mais quand il y a le double discours, en fait, c'est assez drôle. En fait, quand les gens qui ne comprennent pas partagent le message, il y a une espèce de troll qui marche bien, donc c'était assez drôle. C'était assez drôle à voir.
Donc, vous pouvez découvrir ça, mais aussi donc Brut et également sur arte.tv depuis hier. Il revient quand Bertrand, saison 2. Bertrand Hucelage est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et si, pour vous ressourcer, vous preniez un shot de forêt ? Rien que pour avoir une idée pareille, Anne Le Gall, notre expert environnement, a dû prendre un shot d'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire, Bertrand.
La toute première cocaïne bio.
Oui, voilà, je vois que vous la connaissez, voire même que vous la fournissez.
Normalement, la cocaïne, c'est coupé avec des pneus ou du plastique. Nous, on prépare l'aloe vera, ou alors coupé en France avec des légumes anciens ou locavores, bio, bien sûr, pour que chaque trace rappelle la cuisine de grand-mère.
Bertrand Hucelage, Anne Le Gall, la rencontre de deux amoureux du bio. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Quand le journalisme le plus rigoureux rencontre l'esprit festif d'une bande d'amis, c'est le cocktail détonnant que vous propose chaque après-midi l'équipe est sauvage, des journalistes sérieux dans une émission de divertissement. C'est un peu comme si Patrick Cohen lançait une chenille dans les années bonheur en s'exclamant
« De toute façon, quand on a 4 grammes, on a 4 grammes !»
L'image est parlante, mais elle néglige une autre dimension de notre émission, son aspect compétitif. Chaque après-midi, vous votez pour votre journaliste préféré, sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Aujourd'hui, Bertrand Hucelage, génial créateur de Brut, la parodie du site d'information Brut. La vie, vous en avez conscience, mon cher Bertrand Hucelage, est une compétition. Même Anne Le Gall, notre icône verte qui déteste le concept même de compétition, a fini par s'y plier. Occupant les avant-postes du championnat d'Europe 1 des meilleurs journalistes, elle tente de s'y maintenir à grand renfort de happening destiné à donner du relief à sa chronique. J'ai lu, Bertrand, qu'à une époque, vous vous plaignez de ne pas avoir de gros moyens pour réaliser vos vidéos. Je vous pose la question, savez-vous vraiment ce que signifie ne pas avoir de gros moyens ? Écoutez ça et répondez-moi après.
Un maire, s'il le veut, peut-être un géant vert.
Géant vert.
Voilà, géant vert. En fait, on n'a pas les droits pour la publicité, donc...
Voilà, Bertrand Hucelage, ce que c'est que de ne pas avoir de moyens. Bienvenue sur Europe 1.
Le plus pathétique, c'est ouais, attends, qu'on n'ait pas des moyens. C'est qu'en plus, elle me dit « chante géant vert » et moi, je le fais, quoi.
Mais oui,
c'est,
vous réagissez, vous êtes une bonne camarade, effectivement. Ouais. Voici donc Anne Le Gall qui cherche aujourd'hui à nous entraîner dans les bois. Une Émile Louis, comme on dit dans le petit milieu de la Valais. Allez-y, Anne, je vous laisse là-dessus.
Alors, ça se passe aux États-Unis. On est un petit peu loin d'Émile Louis. On vante souvent l'excellence du système universitaire américain. Les campus prestigieux. Mais là-bas,
on
les étudiants... Exactement. En raison de la pression financière, les étudiants connaissent un niveau de stress assez hallucinant. Les deux tiers se disent avoir vivre une anxiété écrasante. 13% des étudiants américains sont diagnostiqués dépressifs. C'est pour ça que des chercheurs de l'université de Cornell dans l'État de New York se sont intéressés à une méthode naturelle pour aider ces étudiants. C'est la balade en forêt ou la balade dans le parc.
Là, Bertrand, il dit « je ne suis pas venu pour rien, il y a déjà une idée de sketch qui vient là. »
Non mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ces chercheurs ont comparé les résultats de 14 études portant sur 700 étudiants âgés de 15 à 30 ans à travers le monde. À chaque fois, il a été demandé à ces étudiants d'aller se promener 10 minutes par jour dans une forêt ou dans un parc. Et les chercheurs ont ensuite mesuré leur pression artérielle, leur rythme cardiaque, leur taux de cortisol. Vous savez, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ils ont aussi fait passer des tests pour mesurer la mémoire, la concentration, la créativité. Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Psychology. Et il apparaît clairement qu'un petit, comme ça, un shot de nature de 10 minutes a permis à ces étudiants de donc, réduire leur stress de façon considérable et améliorer les performances de leur cerveau par rapport à des étudiants qui n'auraient pas fait de pause dehors ou alors qui seraient allés se balader en ville.
Mais ça marche dans tous les parcs, si vous allez au Bois de Boulogne par exemple. Est-ce que les forêts ont toutes le même apport?
Ça marche aussi dans les parcs urbains. Il faut avoir des plantes, du verre. Et ça marche surtout au bout de 10 minutes. C'est ça qui est étonnant. Les effets démarrent à partir de 10 minutes et jusqu'à 50 minutes. Donc au-delà de 50,
ça les sert effets plus à rien. Il ne faut pas exagérer non plus. On arrête son 4x4, on garde le X5 devant. On va faire 10 minutes. Et ensuite, on écoute Docteur Dehors, on rentre.
Voilà. Et la posologie optimale, c'est 3 fois 20 minutes par semaine. Et là, on a un cerveau au top. Tout ça donc figure dans la très sérieuse étude de l'Université de Cornell. Alors, comment des shots d'arbres, des balades en forêt peuvent-ils avoir un effet vraiment chimique, physiologique sur l'organisme? Eh bien, écoutez cette explication de Pascale Derme. Elle est la réalisatrice du documentaire Natura, qui est une grande enquête scientifique sur les effets de la nature sur la santé.
Les arbres émettent des phytoncides qui sont des hormones de protection contre les insectes et les bactéries. Et ces phytoncides que l'on peut sentir, qui ont des arômes de citron, de pin, qui sont émises beaucoup par les résineux, mais aussi par les chênes et les hêtres, protègent les arbres contre ces insectes, mais nous protègent aussi, et plus précisément, renforcent notre immunité naturelle.
C'est merveilleux, quand les arbres se protègent des insectes,
mais donc si je fais 10 minutes de marche autour du yucca de notre plante commune de l'open space, ça va me faire du bien.
Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a la balade, le contact avec la nature, et il y a aussi la vue, rien que la vue du vert, ça a déjà un petit effet sur le cerveau. Voilà, donc je pense que depuis quelques minutes, donc les effets démarrent au bout de 10 minutes, donc je pense que vous vous sentez mieux déjà un petit peu.
Ah oui, vous nous entraînez en forêt là.
Oui, j'essaie de vous mettre dans l'ambiance.
Elle racole à mort pour avoir les points, c'est pas gagné. Merci Anne Le Gall. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points de la victoire? Notre invité a jusqu'à 18h pour se tâter.
Europe 1.
À suivre, fera-t-il mieux qu'Anne Le Gall? Jean-Philippe Ballas sera notre deuxième concurrent du jour. Un journaliste pour lequel Anne a beaucoup de respect, sachant qu'il est entré à Europe 1 10 ans avant elle. Elle le voit un peu comme...
Un vieux pommier sauvage qu'on aimerait préserver.
J'aurais plutôt dit un mentor, moi j'espère qu'il le prendra pas mal.
Petit con.
Jean-Philippe qui pose aujourd'hui une question aussi métaphysique que saugrenue, que je qualifierais donc de métaphysico-grenue. Comment photographier le temps qui passe? Il nous le révèle juste après Duo, Philippe Catherine et Angèle sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Certaines associations laissent en bouche un goût amer, la brandade de morue à la cannelle par exemple. Mais il faut toujours chercher de nouvelles recettes, c'est pourquoi j'ai créé l'équipe est sauvage. 400 grammes de journalisme, une cuillère à soupe de conneries, une pincée de trash pour faire le buzz.
C'est ma bite.
Et surtout, un invité formidable. Aujourd'hui, le comédien et auteur Bertrand Huskla, créateur de Brut, version parodique de Brut, et que vous retrouvez dans la saison 2 de Il revient quand Bertrand, dispo sur le site d'Arte. Il faut pitcher un petit peu. Eva, vous êtes forte pour pitcher.
C'est compliqué. Oui, alors je vais essayer, mais c'est pas
que je vous refile la patate chaude.
Sur la première saison, vous êtes un trentenaire, vous faites largué par votre copine Magali, que vous appelez Magalou. Et puis, vous allez décider, avec l'aide de votre voisin, de l'espionner via nos réseaux sociaux et via toutes les petites caméras qu'on peut avoir sur les smartphones, sur nos télés connectés, etc. Et sur la deuxième saison, vous avez un peu grandi, un peu vieilli, mais l'espionnage est toujours de mise.
Exactement. Le personnel a vieilli, pas moi. Moi, je suis resté le même. Oui, on a sur cette première saison un personnage que j'aime bien, en fait, qui est un personnage totalement immoral. C'est qu'en fait, par un concours de circonstances un peu débile, il est passé barré de sa copine, il est en break. Il y a ce truc un peu du break.
Nuance
de trucs, genre, ah ouais, en fait, on est ensemble, mais plus ensemble, on se prend un petit temps pour. Ouais, ok. Et en fait, en débarrassant ses affaires, il se pète la jambe, et en fait, il est sauvé par le voisin du dessus qui l'accueille, qui lui met de la glace, et en fait, en bougeant un joystick chez ce voisin, Gus, ce personnage un petit peu étrange, il se rend compte que ce mec, qui est un ancien militaire, a mis tout l'immeuble sous vidéosurveillance, comme passion un peu d'observer un peu les gens. Donc du coup, le mec, là, Bertrand, se retrouve avec une arme nucléaire, il va faire croire à sa copine qu'il fait un tour du monde.
Et en fait, il est juste au-dessus.
Il est juste au-dessus. Ce qui fait que quand il appelle son ex, eh ben, il voit quand elle répond pas. Quand elle a un rencard avec un mec, il le voit. Donc en fait, c'est tout ce qu'on veut pas voir quand on est en période de séparation, et lui, il y assiste.
Est-ce que ça vous fait peur, ou est-ce que vous maîtrisez tellement les outils, les nouvelles technologies, tout ça, que finalement...
Je me sens clairement sur un fil, en fait. Et de plus en plus, au fur et à mesure que ça avance, moi, je commence à avoir une communauté qui me suit, et une blague qui part mal, un truc. Ouais.
Vous vous auto-censurez, du coup? Vous vous dites, est-ce que tout le monde va bien comprendre le deuxième degré sur ça?
J'essaye à chaque fois de bien valider mes blagues. Et en même temps, à l'inverse, tous les sujets dont il ne faut pas parler, j'essaye quand même d'en parler. Parce que j'ai l'impression qu'à terme, c'est un truc qui va me servir. Si je peux construire, allez, entre guillemets, ça ne se voit pas à la radio, mais j'en fais, une espèce de carrière, où si un jour je dis un truc de côté, je pourrais toujours me défendre en disant non mais regardez ce que j'ai fait quand même avant. Il y avait cette affaire, je crois que c'était Guy Bedos qui avait traité Nadine Morano je ne suis pas Guy Bedos, donc je ne vais pas m'y risquer, mais il me semble qu'il avait été relaxé, qu'on avait dit que ça restait dans le cadre de son activité, et je me suis dit putain mais ça c'est quand même génial quoi. Le mec dit non mais lui il a le droit mais pas vous, et je me suis dit je veux être Guy Bedos sur ce point
quand même... Maintenant vous pouvez tout dire,
voilà,
dans le cadre de votre activité.
On verra parce que Guy Bedos n'avait pas Twitter, enfin c'est très très compliqué. Il y a des moments où je sors un truc et même les gens que je veux défendre m'attaquent parce que je ne l'ai pas dit comme il fallait, et ça c'est
ça devient très compliqué.
Mais pour l'instant, c'est encore marrant, ça va. J'ai pas encore eu de vrais trucs.
Mais avec un problème notamment sur brute, j'y pense souvent, c'est qu'il y a des gens qui vous découvrent, qui voient pas très bien le mot brute en fait en haut de la vidéo à droite et qui pensent que c'est brute et donc ils vous répondent mais vraiment au premier degré sur vos vidéos.
Ça c'était en réalité ça arrivait beaucoup sur les premiers. Maintenant le programme commence à être installé et j'ai toujours essayé d'en jouer sans qu'on m'attaque, qu'on me dise un peu de faire de la fake news, parce qu'il y a pas mal de sites qui font un peu ça, je vais pas les citer, mais des sites où vraiment quand on... les gens se limitent beaucoup au titre quand et on partage les trucs, quand ils voient le titre ils disent ah j'ai compris et tout. Et alors il y a des moments où les titres sont quasiment mensongers sur des vrais médias, et parfois ce sont des parodies mais on le voit pas, il y a des gens qui changent une lettre comme exactement ce que je fais, mais il y a des moments où la parodie est tellement fine, au moins le Gorafi il y a un truc qui est assez clair je trouve dans le truc, et là eux je trouve qu'ils sont plutôt du bon côté, mais il y en a d'autres, là il y a un truc qui est sur l'histoire que la fellation que transmettrait moins le coronavirus que la bise, et ce truc est parti répandu, ce qui était une fake news.
Moi j'ai cru moi,
mais tout le monde mais le site était complètement bidon, et en fait comme tout le monde on a juste regardé le titre, et voilà, donc j'essaye un peu de faire attention, mais c'est vrai qu'au début on m'attaquait un peu, enfin on m'attaquait non, vous m'attaquez en fait.
Je trouve que c'est aberrant que les gens ne voient pas le côté parodique.
Et voilà, et il y a des moments où il y a des gens, je peux rien faire pour eux. C'était de se voler de ma réponse.
Brute va vous faire hurler de rire. Bertrand Huskla est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
C'est une légende d'Europe 1 qui s'apprête à entrer en piste. Un journaliste dont la réputation dépasse allègrement les frontières de notre rédaction, puisqu'au Bhoutan, à la simple évocation du nom Ballas.
Beaucoup pensent à l'échangisme, au bondage.
Oui, Jean-Philippe Ballas arrive avec aujourd'hui une grande et vertigineuse question. Comment photographier le temps qui passe ? A tout de suite.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. L'équipé sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipé sauvage. 2 heures d'une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre savoir et sous l'œil vigilant de notre invité coup de cœur du jour, Bertrand Huskla, créateur de Brute et actuellement dans l'hilarante série d'Arte, Il revient quand Bertrand. Bertrand Huskla, comment vous résumez en 3 mots ?
Je peux vous dire que je suis un sacré quetard tenté.
Merci de cette concision qui me permet d'enchaîner rapidement sur la compétition, puisque voici venir notre deuxième concurrent du jour, le redouté Jean-Philippe Ballas, qui va tenter à présent une chronique émotion. Je vous souhaite bonne chance. Seul conseil que je peux vous donner, suite aux déboires buccaux de ces derniers jours, pour éviter les lapsus malheureux, articulez.
Mais il n'y a pas que le CO2, il y a tous les polluants qui sont en nette baisse.
Écoutez, je ne force rien du tout. Jean-Philippe Ballas, c'est à vous, je ne dis plus rien du tout. Du tout, je ne dis plus rien. Dis plus rien, c'est fini.
Que dire après ça ? Allez, j'ai des effets spéciaux, vous entendez ?
On est vous aussi, vous nous entraînez en forêt ?
On est plus précisément dans l'Iowa, on est devant un petit pavillon de briques rouges avec un toit blanc, on est à Sioux City. Et c'est la maison des parents de Dina Dickman. Dina Dickman, c'est une jeune photographe qui ne rate jamais une occasion d'imprimer la pellicule. Et ce qu'elle aime surtout, c'est prendre sa famille sur le vif, dans des gestes quotidien, anodin, dans la cuisine, dans le salon. Et puis tenez, par exemple, ce petit moment particulier qu'on a tous vécu. Vous savez, quand il vous faut reprendre la route le soir, que vous repartez en voiture, ce moment où la famille, les amis sortent devant la maison, la porte du garage, et qui vous font un petit signe de la main. Et bien c'est ainsi qu'en 1991, alors qu'elle est déjà au volant, Dina Dickman a l'idée d'immortaliser cet instant. Elle photographie ses parents qui se penche vers la portière de la voiture pour lui dire au revoir. Il fait beau. Sa mère, on voit, elle a un petit bermuda. Son père est en chemisette. Et c'est ainsi que, pendant plus de 30 ans, à chaque fois qu'elle va repartir de ses parents, Dina Dickman va les photographier. Alors parfois, on voit un bout de tableau de bord, on voit le rétroviseur. Mais les parents, ils sont toujours là. Alors parfois, c'est l'hiver. On voit qu'ils portent un bonnet. Parfois, c'est la nuit. Parfois, la porte du garage familial est ouverte. Et là, on voit la vieille Buick bleue du père de Dina Dickman. Et puis, on voit le temps qui passe, surtout. Parce qu'il y a un siège bébé au fil des années qui apparaît à l'arrière de la voiture. Et puis, on voit les parents de Dina qui vieillissent, forcément. Tenez, je vous ai apporté des photos. Hein. On va les montrer sur europe1.fr. Vous pouvez les échanger. Et on voit que la maman de Dina, elle commence à se courber légèrement. On voit que le papa, il a besoin d'une canne désormais, mais il sourit toujours avec sa casquette de baseball.
Ah, j'ai pris à l'envers, moi, parce que si elle devient plus vieille que ça, c'est pas possible. Attendez, je reprends dans l'ordre.
Oh, Mathieu.
Vous êtes méchant, parce qu'un jour, en 2010, il n'y a plus que la mère de Dina sur la photo. Là, on comprend que monsieur est parti. Alors, il est parti paisiblement dans son sommeil. La maman de Dina, elle continue à poser. Alors, elle sourit quand même un peu moins. Elle le rejoindra quelques années plus tard. La dernière photo de cette série, c'est le pavillon de briques rouges avec la porte blanche du garage définitivement fermée.
Vous êtes trop triste.
Il n'y a plus personne pour agiter la main et dire au revoir.
Alors, mais Jean-Philippe, photo... on a envie de pleurer.
Mais vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que cette photo, elle a été publiée par le New Yorker, elle est mise en ligne. Elle est ultra partagée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux Pourquoi ? Parce qu'elle parle à tout le monde. Et je me suis aperçu que finalement, eh ben, on n'a plus d'album de famille chez
mais
nous.
Non,
on n'a plus rien.
C'est
vrai. On a uniquement, moi, j'ai ma plus jeune fille, elle a découvert pour la première fois de sa vie un album de famille en vrai, ouais, chez ses grands-parents, il y a quelques jours. Et finalement, c'est un peu les réseaux sociaux qui sont devenus ce grand album. Alors on pourrait se dire que mettre des photos de ses parents comme ça sur les réseaux sociaux, il y a un côté un peu impudique. Et bien finalement, on n'est pas du tout gêné, il y a un côté miroir, on s'identifie complètement à ça. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a quatre sœurs comme ça qui ont passé des années à se photographier chaque année à chaque fois qu'elles se retrouvaient. On les a vues grandir et c'est des séries qui nous touchent forcément. C'est aussi grâce à Internet aujourd'hui.
Bertrand Esclave, vous avez quel âge ?
Moi j'ai 33 ans.
Vous avez des albums photos à la maison encore ? Ou est-ce qu'on... Vous faites partie de la dernière génération des albums photos ?
J'en ai encore des petits, moi, que je retrouve de temps en temps, à chaque fois que je dois déménager ou nettoyer chez moi, ce qui arrive en même temps, en général.
Une fois tous les 5 ans.
Voilà, quand je les retrouve, je me revois un peu, je me revois avec ma guitare, tous ces vieux trucs et tout. Et c'est, voilà, donc j'ai plus de photos que je tire, mais effectivement, moi, c'est Instagram qui est devenu mon...
Ben voilà.
Mais oui. Même, je mets rien sur Instagram. Non, je prends pas de photos. Enfin, c'est sur mon cloud maintenant. C'est à mon insu.
Mais si jamais un jour Google. Ça plante, ce truc-là.
Exactement.
On n'a plus rien.
J'aurais plus rien. Mais c'est comme un incendie, en fait. Seulement, il y a plus de chance que ma maison brûle, que Google brûle, je crois.
Ça, c'est pas faux.
Il n'y a rien sur votre Instagram, il n'y a que des trucs de promo.
Ouais, y a que
parce
des
que
trucs
je
de
vous ai scrollé, comme on dit. C'est-à-dire qu'on cherche. Scroller, ça veut dire on cherche toutes les infos possibles.
Ah bon.
Sur l'invité ouais. ou sur la personne que vous invitez un soir au resto, vous voyez, vous renseignez avant.
Le fameux stalk.
Voilà.
Le stalk, oui, c'est ça. C'est, voilà. Vous l'avez stalké, c'est
oui,
ça que vous voulez dire.
Il y a scroller aussi.
Ah bon ?
Mais bien
ah,
sûr.
Les deux fonctionnent.
Les deux fonctionnent, merci. Jean-Pierre, expert numérique d'Europe 1.
Voilà. Et je n'ai rien trouvé sur
mais
vous,
ouais, parce qu'en fait, j'ai très très peur, moi, de mettre des trucs perso. Alors, pour deux raisons, parce que déjà, je suis pudique. Et aussi, non, mais à ce côté, j'ai l'impression qu'en tant qu'acteur, quand on met trop de trucs de sa vie de soi, on casse un peu le pouvoir de projection que peuvent avoir là les gens. Je veux rester une page blanche, en fait. J'ai pas de tatouage, par exemple. Aussi parce que j'ai peur des aiguilles, mais parce qu'il y a un truc où j'ai envie de garder une force comme ça de projection, quoi.
On remercie en tout cas Jean-Philippe Ballas. Bertrand, un mot à Jean-Philippe à l'issue de sa prestation.
Toujours se poser la question, pourquoi ? Pourquoi je suis chiant ? Pourquoi j'ennuie les gens ?
Oui, non, bah Bertrand, réservez-vous pour le vote final tout à l'heure. En attendant, on continue de parler de l'univers de Bertrand Huskla, notre invité, jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, un des moments les plus intenses de notre émission, le quiz qui oppose Eva Rock à l'invité. Hier, Eva s'est inclinée pour la 123e fois en 131 confrontations. À chaque fois, elle a une excuse. Lundi, elle avait bu. Hier...
Le problème, c'est que j'avais pas bu. Peut-être que j'aurais dû boire. Ouais.
Elle ne sait plus comment rompre le cercle vicieux de la loose. Mais qui sait ? Sur un malentendu, comme disait Federico Garcia Lorca, qui vive la vera.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, 2 heures d'infos, de rire, mais aussi parfois de révélations. Notre invité Bertrand Huskla est le héros d'une série présentée comme une fiction intitulée « Il revient quand Bertrand ?» Je dis « présentée comme une fiction » car les premières minutes de l'épisode 1 de la saison 2 ne laissent aucun doute, il s'agit du premier biopic sur Eva Rock, ma précieuse complice qui entame sa 8e année de célibat et qui passe sa vie cloîtrée chez elle à mater des séries sous un plaid Maison du Monde en gobant des apéris frais.
Je comprends pas pourquoi la moitié de l'humanité perd son temps à courir après l'autre. Ils savent pas qu'il y a des séries télé les gens ou quoi ? Franchement, c'est ça le bonheur.
Non, ça c'est de la dépression. Tu n'as pas de petit copain ?
Si je veux, j'ai pas envie, c'est tout.
Faut me rappeler quelqu'un.
Et alors, je peux dire un truc ?
Ah oui, dites-le.
Ah, j'ai pensé à moi en voyant la série.
Comme quoi, j'ai pensé à vous, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Alors, Bertrand Huskla, depuis plusieurs mois, vous avez été un adepte d'un art martial non violent, un étudiant fauché, un hypochondriaque, un créateur de jeux de société MeToo, un flic condamné pour la 6e fois par un tribunal, ou encore un député En Marche, que vous incarnez d'ailleurs admirablement. Tout ça pour des vidéos broutes, parodies de brutes, on le rappelle. Comment vous faites pour créer tous ces personnages ? Vous consommez beaucoup l'actu, vous lisez les journaux chaque matin, comment ça se passe ? Où vous trouvez votre inspiration ?
Déjà, là, en ce moment, je suis surtout un auteur en burn-out.
Donc, j'ai plus d'idées.
J'aimerais que l'année s'arrête maintenant. Et non, en fait, le secret, c'est que... Enfin, le secret, bon non, c'est pas un secret, mais c'est que j'ai un co-auteur formidable qui s'appelle Guillaume Crémonès, qui est le réalisateur de la série Il revient quand Bertrand, et qui m'aide. En fait, c'est quelqu'un qui est plus intelligent que moi, moins drôle, mais plus intelligent.
Vous êtes surtout très modeste, vous,
Et en fait, il m'aide parce que lui, déjà, ce qui est cool, c'est qu'il a 10 ans de plus que moi. Donc, moi, j'arrive avec l'idéalisme et lui, il me recadre avec la réalité, en fait. Donc, j'ai forcé toujours ces cette espèce de rôle d'éternel étudiant en disant mais on peut faire bouger. Et lui dit non, calme-toi. Et c'est comme ça que naissent un peu les paradoxes. Et c'est là, de là que vient l'humour en fait. Comment il y a un idéal projeté que lui me casse un petit peu. Ça fait de grandes discussions, parfois pas très prolifiques, et, mais en même temps, c'est vraiment comme ça que ça marche.
C'est bien de travailler avec un ancien. Moi j'ai Jean-Philippe Ballas, voilà, comme ça. C'est 10 ans d'écart, ça me permet de me bonifier.
Alors, c'est que c'est bien les vieux.
Je suis désolé, les amis, de casser l'ambiance, mais comme disait le poète, la vie n'est pas une farandole rieuse, mais un tunnel lugubre dont certains ne voient jamais le bout.
Ah, Oscar Wilde.
Non, François Valéry, c'est l'heure du quiz. Cher Bertrand Huslat, pour le duel du jour et pour rendre hommage à Brout, nous allons tenter de savoir qui de vous ou de Eva sait reconnaître un vrai titre de presse et un titre de presse parodique.
J'ai tellement l'impression.
Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva, un magicien devient allergique à son lapin. Vrai ou faux titre de presse?
Oh bah ça c'est possible, oui, vrai.
Je ne vous demande pas de savoir ce qui est possible.
Oui, je dirais vrai, vrai.
Vous dites vrai?
Oui, je dis vrai.
Réfléchissez bien, Eva.
Je dis vrai.
Essayez de bien entamer ce quiz.
Je dis vrai.
Partir du pied.
Je dis vrai.
Après 123 défaites
d'affilée. Je dis vrai.
Elle dit vrai, c'est la bonne réponse.
Oh,
j'ai tout fait pour vous, Bertrand. Vrai titre. Publié dans Science et Avenir en 2014, un magicien de 34 ans a développé du jour au lendemain des syndromes respiratoires. Il a dû trouver un autre job à temps partiel.
Mais il pouvait changer d'animal.
Il pouvait changer d'animal.
Bah oui, non, mais s'il y avait plusieurs lapins, c'est des animaux.
Plusieurs lapins, d'accord. Bertrand, à 91 ans, il réalise enfin son rêve, enfoncer une porte de garage. Vrai ou faux titre?
Je n'y crois pas. Je compte sur votre gentillesse pour commencer avec un titre vraiment très simple. C'est pas possible, on peut pas faire un titre avec ça.
Mauvaise réponse,
non,
Bertrand.
Non.
Mon Dieu, Bertrand, vrai titre, publié dans Le Point, journalisme sérieux s'il en est. Grâce à sa famille et au voisinage, c'est son cadeau d'anniversaire, défoncer une porte de garage avec son véhicule. Tout le monde était ravi, la porte devait de toute façon être changée.
Mais ouais.
Eva,
ouais.
Oui. Dieu a répondu aux prières du petit garçon handicapé, il a dit non. Vrai ou faux titre de presse?
Enfin, non, mais pourvu que non. Non, c'est pas possible.
Faux titre, publié aux États-Unis dans The Onion, la référence évidemment en matière de site d'infos parodiques. Bertrand, évreux, il barre la route des policiers avec une imprimante pour empêcher l'arrestation de son frère. Vrai ou faux titre?
J'ai envie que ce soit oui, c'est tellement désespéré.
C'est désespéré, déjà c'est à évreux. Vrai titre, publié dans le quotidien Paris-Normandie. Pour empêcher les policiers de repartir avec son frère de 16 ans qui avait commis un vol de vélo, le cadet jette une imprimante depuis la fenêtre pour faire barrage, à ne jamais reproduire évidemment.
Ah oui, j'imaginais qu'il faisait un barrage sur la route avec
plusieurs imprimantes.
Il avait posé et tout.
Un barrage Epson. Eva, après avoir surmonté sa phobie des seringues, il peut enfin se mettre à l'héroïne. Vrai ou faux titre?
Quelle horreur! Ah non, c'est faux ça!
Oh, mais quel flair aujourd'hui! Effectivement, faux titre, c'est publié dans le célèbre Gorafi. J'aime bien aussi dans le Gorafi, 93% des champions de biathlon avouent ne pas regarder le biathlon à la télé.
Ça, c'est vrai!
C'est vrai! Enfin, Bertrand, rattrapez-vous! Rennes, Sébastien a couru après son bus pendant 4 km. Vrai ou faux titre de presse?
Allez, je vais dire oui.
Et c'est 3 points, puisque la dernière réponse valait 3 points. C'était la question bonus.
Vous êtes sympa.
Publié dans 20 minutes, vraiment. Il avait déjà tenté de courir plus vite que le métro, sans succès. Contre le bus, c'est ex aequo. Il est arrivé en même temps sur une distance de 3,6 km. Et ben, vous n'aurez pas fait mieux, vous qui courez aussi vite que Marie-Josée Pérec.
Mais ça dépend, parce que si le bus est dans les embouteillages de Paris, je peux même vous dire que je le double le bus, hein.
Quand la logique imparable d'Eva s'invite dans l'émission, vous écoutez L'Équipée Sauvage. Bertrand Huslat est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
On en rit parfois, les amis, mais le goût de la dérision ne doit pas nous empêcher d'en reconnaître le danger.
Le problème, c'est que j'avais pas bu. Peut-être que j'aurais dû boire. Hein.
L'alcoolisme est un fléau, surtout lorsqu'il devient, comme au Baléares, un tourisme. Le tourisme de la cuite, contre lequel le gouvernement espagnol tente de sévir. Hélas, les mentalités ne changent pas aisément.
J'ai envie d'un spritz et d'un autre spritz.
Notre reportage au Baléares, c'est juste après The Sugar Hills Gang, Rapper's Delight sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez... Listening to the,
je suis impressionnée par cet
Savage
accent. Votre voix,
l'émission,
comme ça,
ça vous excite?
Ah, ça m'excite.
Dites-le. L'émission qui concilie bonne humeur, journalisme de studio, mais également journalisme de terrain. Vous aimez Enquête Exclusive sur M6, vous n'avez pas raté une minute de SDF, milliardaire et prostituée, les dessous du bois de Boulogne, ou encore Talon aiguille et gros calibre, des filles aux commandes des gangs mexicains. Alors bienvenue dans Enquête, pas exclusive mais trash quand même, direction l'Espagne, où l'on retrouve notre correspondant à Barcelone pour votre sujet Baléares, halte au tourisme de la cuite, el turismo de la cuitas, comme on dit là-bas. Bonjour Henri de la Guéry.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, pensons déjà à nos vacances d'été. Si je vous dis soleil et fête, vous pensez sans doute à Majorque, Ibiza Oui, voilà, les excès, c'est terminé. Les Baléares déclarent la guerre au tourisme de la cuite. La situation était devenue intenable, Henri.
Oui, alors écoutez, vous savez, l'été, certains endroits des Baléares deviennent des zones de non-droit, je n'ai pas peur de le dire, des hordes de jeunes touristes anglais, allemands, néerlandais, et parfois, il faut bien dire, des Français fraîchement débarqués de leur vol low cost se livrent donc à tout type de débauche. Je vais vous faire la liste. On a des concours d'alcool sur la plage qui se terminent souvent par des comas éthyliques. On a aussi le balconing, vous savez, c'est cette curieuse activité qui consiste à sauter de balcon en balcon ou tout simplement de se jeter dans la piscine depuis le cinquième ou sixième étage. Il y a des morts chaque année. À Palma, ceci dit, l'été dernier, un Hollandais s'en est sorti miraculeusement. Il a mal visé, il est tombé dans un conteneur à poubelle. Et puis, voilà, mais il s'en est sorti. Ça faisait la une du Diario de Mallorca. Et puis, il y a les innombrables bagarres entre touristes alcoolisés. Il y a ceux qui confondent la voie publique avec leurs toilettes. Et parmi les infractions relevées par la police, tenez-vous bien, on a le cas cet été d'un Albanais qui a circulé dans le port d'Ibiza en Ferrari avec sur le toit de sa belle voiture rouge une femme nue, les jambes écartées. Voilà, ce ne sont que des exemples parmi d'autres qui exaspèrent les habitants. Maria vit dans une résidence près de Palma et la plupart de ses voisins sont des touristes, on l'écoute.
Ils font la fête jour et nuit, ils vendent de la drogue en bas, ils hurlent depuis le balcon. On ne peut pas dormir et on ne peut pas se reposer à cause de ces locataires.
Et alors, attendez, le Parlement des îles Baléares a donc décidé de légiférer carrément ?
Oui, effectivement. Alors, en Espagne, les régions peuvent légiférer et un paquet de mesures vient d'être voté. Les happy hours, les formules de verre pour le prix d'un, les open bars et ce qu'on appelle le pub crawling, c'est la tournée des bars, sont désormais interdits dans les points les plus chauds des îles. Les commerçants ne pourront plus vendre d'alcool après 21h30. Et puis, plus question pour vendre des boissons d'utiliser les femmes comme appât en offrant, par exemple, des défilés de lingerie aux consommateurs ou pire, tenez-vous bien, des concours de fellation. Oui, on en a vu où les jeunes filles sont récompensées par de l'alcool à volonté.
C'est horrible.
Ah bah effectivement, mais ça avait fait scandale.
Le mouvement MeToo n'est pas passé là-bas visiblement.
Ah ouais. En tout cas, voilà, le balconing sera également sanctionné, fortes amendes hein, entre 6 000 et 60 000 euros. Et puis surtout, attention Mathieu, il faudrait que vous teniez bien au Baléares. Une liste noire pour les mauvais touristes sera établie. C'est simple. À la moindre infraction, vous n'aurez plus le droit de venir dans l'île. Enfin, pour limiter les nuisances sonores, mais aussi et surtout pour freiner les noyades, les party boats, ce sont les fêtes dans les bateaux, seront elles aussi beaucoup plus encadrées.
Eh bien, Henri de Laguérie, je vous remercie et je note quand même l'ironie de cette chronique, puisqu'il est amusant que ce soit vous, Henri, avec qui nous avons fait quand même pas mal de soirées open bar dans notre jeunesse à Sciences Po, qui fassiez cette dénonciation comme ça, des voilà, open bar et des soirées délurées en Espagne. Vous avez bien changé, Henri.
Un vieux réac. Voilà.
C'est
un vieux réac. C'est l'âge.
Et je vous embrasse, Henri.
À bientôt.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe Et Sauvage, une bataille qui se joue, vous le savez, en deux temps. Deux journalistes vont nous quitter, deux autres vont nous rejoindre. Tous, je le rappelle, ne vivent plus, ne respirent plus que pour un objectif, décrocher la couronne de chroniqueur du jour. À ce stade de l'émission, notre invité a déjà pu se faire globalement une idée du niveau général. Bertrand Huskla, vous venez d'entendre nos deux premiers journalistes. Comment vous voyez leur avenir ?
Pourquoi pas des SDF dans la rue ?
C'est un indice sur votre vote, mais rien n'est joué. Restez avec nous, on reviendra sur l'histoire d'un des termes qui va marquer les semaines qui viennent dans le monde du sport, le huis clos. Et puis on parlera parodie et musique.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'attention s'apprête à monter d'un cran dans l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre. Pour eux, il s'agira non seulement de vous offrir le meilleur sujet, mais également de faire preuve d'esprit et de drôlerie, le tout en déjouant les pièges vicieux que notre invité arbitre leur tendra. Un instant d'inattention, de relâchement et pam, on tombe dans le panneau, comme Anissé Mbida, notre expert innovation hier, qui n'a pas senti que Chaim, notre invité, l'entraînait dans un cruel guet-apens qui allait lui valoir la défaite dans l'émission et un forfait 6 jours cette nuit à l'hôtel du cul tourné avec sa femme, si jamais elle était à l'écoute d'Europe 1.
Je sais qu'il y a beaucoup de porno avec le coronavirus, des films porno sur la thématique coronavirus. Oui, avec les masques et tout. Dès qu'il y a un truc qui marche, le porno s'en empare. Je suis journaliste, c'est mon métier d'enquêter sur tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est numérique.
Je le répète toujours à mes journalistes, méfiez-vous de l'invité qui vous pose des questions. Parfois, il est encore plus sadique que moi. Vous confirmez, Bertrand ? Je vous sens un peu sadique, vous aussi.
Je savais pas s'il y avait une...
Non,
c'est le vrai. C'est à moi de parler ou pas, je sais pas quoi. Non, je suis pas sadique, je sais pas, j'ai pas prévu.
Juste cynique. Alors... Vous dites souvent dans les interviews que vous aimez bien le cynisme. Il n'y a pas d'humour sans cynisme.
J'aime beaucoup le cynisme parce que je trouve ça très très méchant. Et j'ai un peu de difficulté avec l'humour bienveillant parce que j'ai l'impression que l'humour, c'est surtout une espèce d'arme politique qu'il faut un peu utiliser. Et c'est pour ça que
Vous êtes assez politique, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission.
Mais je sais pas, enfin on me le dit.
Moi, c'est pas conscient, c'est pas.
C'est juste que ça me fait rire. Et rétrospectivement, je me dis, ah peut-être, en fait, il y a un point de vue et tout, mais après, j'ai l'impression de dégager quelque chose de plus engagé que ce que je suis vraiment.
Parce que vous êtes vraiment dans la vie finalement. Juste que c'est drôle, donc vous en servez.
Je suis d'extrême droite.
Et on peut le dire, c'est son coming out politique aujourd'hui sur Europe 1. Heureusement, les amis. Il est 17h sur Europe 1.
Europe 1. 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'hybridation potache du journalisme et du divertissement, aurait titré Télérama. Une émission sympatoche où on rit et où on apprend des trucs, aurait titré Télépoche. Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures d'un joyeux foutoir au cours duquel les meilleurs journalistes d'Europe 1 se mettent sur la gueule au service de votre culture G. Un seul ressortira de là avec la couronne de chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter pour votre journaliste préféré, sachant que notre invité d'honneur aura son mot à dire. Un invité pour qui l'équipe sauvage est souvent plus qu'une émission, un roller coaster émotionnel. Comme par exemple pour la chanteuse Shaim que j'ai draguée honteusement hier durant toute l'émission, jusqu'à ce que je me trahisse bêtement au détour d'une confidence.
C'est à cause des tâches ménagères. Et oui, dans les couples gays, il y a un partage équitable.
Enfin, Eve, on est en 2020. Hein. Moi, si je range pas la petite cuillère dans le lave-vaisselle ou que je nettoie pas le verre, je me fais défoncer. Hein.
Mais t'as une copine, ça veut dire ?
Oui.
Depuis tout à l'heure, tu me chines et en fait, t'as une copine. Oh. Non, mais d'accord, il bouffe à tous les râteliers, quoi.
Ah, oui. Bien. Bon. De toute manière, la question ne se posera pas avec notre invité du jour, Bertrand Huskla, l'inventeur de Brut, la parodie de Brut, qu'on retrouve également dans la saison 2 de Y revient quand Bertrand, sur Arte, on continue de découvrir votre univers que j'adore, je le dis, je le redis, je vais le dire jusqu'à la fin de l'émission. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, je tiens à lui présenter officiellement mes excuses. La dernière fois qu'il avait emporté l'équipe sauvage, on avait eu une dégustation de Chablis juste avant. J'ai réussi quand même à l'oublier en l'espace de 10 secondes, j'ai oublié le nom du vainqueur.
Je vais voter pour la chronique sur Brian Ferry.
Merci pour beaucoup. Fred Goati, c'était extrêmement serré. C'est donc... J'ai oublié parce que j'ai vu...
Fred Goati. Mon Dieu.
Bonjour Fred Goati. J'en suis souvenu.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Le directeur de Jazz Magazine, et cet après-midi, face à un as de la parodie, vous avez décidé de nous parler de parodie en musique.
Et oui, on se souvient de Peter Sellers, parce que c'est de Peter Sellers dont je vais vous parler. Alors, on se souvient de Peter Sellers dans L'Inspecteur Clouseau, la série des Panthères Roses. Vous vous souvenez peut-être de The Party, le film culte de 1960, Urundi Vibakshi. Mais on connaît peut-être moins Peter Sellers, chanteur qui a enregistré des chansons parodiques, notamment d'un groupe pop anglais très célèbre. Je ne vous en dis pas plus.
Quatre garçons, peut-être, un petit peu dans le vent. À ses côtés, Bertrand, un rival pour vous. Lui aussi fait de petites vidéos sur Internet. Il propose des tutos en partenariat avec le site Pornhub.
Oh, mais non.
Bon, alors, les scénarios sont un peu minimalistes, mais disons qu'il y a un début.
Pensez-vous. Ok.
Et une fin.
Bon, bah écoute, on a tout. C'est bon, c'est rentré.
Bonjour, Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu.
On n'en voit pas votre chaîne YouTube. Vous êtes, comme on l'a évidemment compris, notre expert sport. Et aujourd'hui.
Et performance.
Et aujourd'hui, vous revenez sur le mot qui terrorise le monde du sport. Huit clos.
Oui, on parle de parodie. Certains parlent de parodie de foot ou de parodie de sport. Effectivement, huit clos. On entend beaucoup ce mot. On en voit aussi. Vous en écoutiez peut-être hier soir sur Europe 1 lors de PSG Dortmund. Moi, je vais vous raconter qu'est-ce qui se cache derrière ce huit clos dans le sport, la face cachée de l'iceberg. Les conséquences économiques sur le sport et puis aussi une petite dimension historique, je vous dirais, d'où ça vient, le terre,
c'est
etc.
Petit côté Alain Decaux. Ça, c'est pour glaner les points au dernier moment. Clac ! Pour avoir les points culture en plus. Alors, le meilleur des parodies musicales ou bien la pandémie des huit clos dans le foot, quel sujet l'emportera ? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité Bertrand Huskla. Vous avez créé Brut, l'alternative comique à Brut, une autre manière de consommer l'info. Mais vous êtes plutôt Brut ou plutôt Brut ? On est allé vous poser la question.
Brut ou brut ?
Je suis plus brute que brute.
C'est quoi ça ?
Bah brute.
C'est drôle.
Brute. Ça fait penser à autre chose. Les femmes.
Brute, mais non, je n'y vais pas. Ni brute, ni brute, ni brute, ni brute.
Brute, je pense au salaire.
Brute, c'est un parfum.
Brute, la campagne ou autre chose. Voilà.
Ça existe, brute ?
Brute, c'est détourner l'information, non, c'est ça ?
C'est comme Combini.
Non, mais bon, les médias actuellement, on parle du coronavirus et...
Brute, des petites vidéos sur Instagram.
Moi, je vois leurs vidéos sur Facebook, en fait.
C'est sur YouTube aussi.
Je cliquerai, surtout si c'est brute.
Alors c'est marrant, oui. Il y a vraiment deux écoles. Alors, déjà, moi je suis censé connaître un petit peu ce qui se fait dans le métier. Et je ne connaissais pas, enfin je connaissais Brut en fait, mais je ne connaissais pas Bertrand Huskla.
Ah, oui.
Pas vraiment,
vous n'avez pas mis un nom sur un
visage. Exactement, ouais. Pourtant vous êtes une star sur Internet.
Alors,
j'ai regardé vite fait hier, donc du coup
vous
découvert.
Avez des millions de vues,
oui.
On peut le dire.
Ouais, ça oui, mais en fait il y a un truc un peu étrange qui se passe, c'est que moi c'est la première fois que, ça fait quand même maintenant 5-6 ans que je suis sur Internet, avec, avant j'avais un collectif, enfin avant, non ils sont
toujours là, ils sont
vivants et on est potes et on est ensemble, les sketchs qui vont bientôt sortir, je les embrasse, mais j'avais commencé avec eux, avec une équipe en fait, avec une équipe, et en fait je faisais tout ce qu'il fallait pas faire en fait, on était 5, sur Internet on était 5, on était des acteurs avec une formation classique qui voulait faire du sketch avec de la fiction qui prend du temps, c'est tout ce qu'il faut pas faire sur Internet, faut des infos rapides, cut, ouais. Des personnages identifiants. Et en fait, avec Brut, c'est la première fois en fait, de ma vie. Ça a commencé en septembre. Alors, pas le programme Brut, mais l'ultra régularité du programme a commencé en septembre. C'est la première fois que je joue un peu les règles de l'algorithme sur Internet. C'est-à-dire revenir fréquemment deux fois par semaine. Et c'est ça, en fait.
C'est le tempo qui fait le succès sur Internet ?
Je pense. Et vraiment, ça me crève un peu le cœur de le dire. Parce que je pense que pour tous les gens qui veulent faire des trucs de qualité long réfléchi en autoproduction, c'est de plus en plus compétitif et difficile. Et là, c'est la première fois, grâce à l'apport de Canal+, que j'ai une régularité, je suis obligé de fournir. Et ce qui développe aussi un truc formidable, c'est que même des idées qui sont très très mauvaises, comme on est obligé de les faire, elles deviennent géniales. Donc des trucs, j'aurais pas idée de faire ce truc-là, et puis on n'a pas le choix, faut rendre des trucs, et ça fait des trucs assez beaux. J'en avais fait un sur la disparition du rasta blanc, comme si c'était un animal disparu avec des images d'archives. Et ça, si j'avais pas été produit, si j'avais fait ça tout seul, je me dis, mais jamais je vais sortir un truc comme ça, quoi.
Une question beaucoup plus pragmatique sur les sources de revenus.
Ouais.
Qui vous paye ? Comment ça marche en fait ?
Ce qui me paye, c'est Canal+, ou Arte quand je fais Il revient quand Bertrand. Ce sont des pôles de fiction, ce sont des pôles qui ont suffisamment d'argent à mettre en fait, pour développer une marque éditoriale forte pour défendre une chaîne en gros. Donc moi je ne suis pas payé par YouTube. YouTube me paye rien en fait, c'est ridicule. Là je peux vous dire, c'est 1 500 $ par mois qu'on fait sur la chaîne.
Ouais. Alors que vous avez des millions de vues.
Alors qu'on a des millions de vues et qu'on a une équipe de, au minimum 4-5 personnes, au minimum 4 acteurs et parfois jusqu'à 30 personnes sur un plateau. Donc si on doit tous se diviser, je pense qu'au moins les charges, tous les trucs à payer, ça devrait 70 centimes par mois par personne.
On embrasse l'URSSAF quand même. Brut va vous faire hurler de rire. Bertrand Huskla, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et que les amoureux du LOL, les déglingos du PTDR se réjouissent, car pour s'offrir une bonne tranche de rire, quoi de mieux que de donner la parole au directeur de Jazz Magazine ? Fred Goetti revient sur ces parodies qui ont marqué l'histoire de la musique. Et à cette idée, je sens que notre invité Bertrand Huskla se dit...
Mais pourquoi ?
Non, génial, j'ai hâte, c'est ça que je vous dis. À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour flatter vos zygomatiques sans pour autant bouder vos cervelles, en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui défilent au micro pour vous offrir ces infos que vous serez tout fiers de replacer ce soir au dîner. Et justement, l'heure est venue d'écouter notre troisième concurrent du jour. Il est au jazz ce que Philippe Manœuvre est au rock. Beaucoup de gueule, mais après en off, en revanche, c'est une autre chanson, moins rock.
On est là pour le rock and roll, kids. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau chaude sur montée de quelqu'un qui serait dans le coup de l'assistana ?
Fred Goetti, vous êtes le directeur de Jazz Magazine et aujourd'hui, en hommage à notre invité Bertrand Huskla, génie de la parodie, vous nous proposez un voyage dans les parodies musicales. Une précisément.
Oui, Peter Sellers. Du coup, je n'ose même plus dire qu'il était batteur de jazz à l'origine, ce qui est vrai en plus. Peter Sellers, avant d'être une vedette de cinéma hollywoodienne. Mais dans les années 50, il a surtout été aussi l'une des vedettes d'un feuilleton radiophonique de la BBC, extrêmement populaire et tout à fait loufoque, hein, qui s'appelait le Goon Show. C'était énorme en Angleterre, ça. Alors, grâce à cette notoriété, il s'est mis à enregistrer des comedy records, des 45 tours et des 33 tours aussi, truffés de chansons parodiques. Et le producteur de ces disques, eh ben, c'était un certain George Martin.
Ah oui,
George Martin,
le producteur des Beatles.
Lui-même, le George Martin qui supervisa, parmi tant d'autres chefs-d'œuvre des Beatles, cette chanson bien connue de nos auditeurs. Alors en 1965, Peter Sellers et George Martin se rendirent au fameux studio Abbey Road pour enregistrer une nouvelle version de The Hardest Night. The Hardest Night, c'est pour moi, je sais. Avec un arrangement baroque et chanté, ou plus précisément récité, à la façon de Laurence Olivier, comme si c'était Richard III.
It has been a
ça fait penser au Monty Python.
Oui.
Night, and I have been working like a dog.
Et le texte est sacré,
it's
comme du Shakespeare.
Days, night.
On ne change pas une ligne.
I should be sleeping like a log.
Ah, c'est génial.
But when I get home to you,
I find the things that you do will make me feel.
Ah mais ça, la prochaine right. soirée que je fais, je le mets. Hein. À mon avis, tu crées un moment dans la soirée qui est mythique. Hein.
Je vous l'offre. Alors, sur la face B de ce 45 tours, hein, qui a grimpé jusqu'à la 14e place des hit-parades anglais, il y avait une autre reprise parodique des Beatles. Alors, réécoutons là encore la version originale. Help, I need somebody, help, not just anybody, help. Alors maintenant, je vais vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. C'est un moment solennel. Nous sommes dans un lieu de culte. Et le révérend Sellers va chanter, elle, enfin plutôt va faire son serment.
Help, I need somebody, help, not just anybody.
C'est beau, en plus, c'est beau.
S'il vous plaît, un peu de respect.
You know I need someone.
George Martin.
Wow.
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Ce sont les paroles originales.
Mais oui,
but now these days are gone.
Bon, alors ça,
on va pas jusqu'au bout. À la fin, il passe dans les rangs pour.
Pour la quête
pour la Beatles Church. L'église des Beatles. Alors. Plus sérieusement, si possible, sachez que Peter Sellers et Ringo Starr, le batteur des Beatles, faisaient très souvent la fête ensemble et qu'ils partageaient même l'affiche d'un film, The Magic Christian, en français, un Beatle au paradis. Bon, on se foulait pas trop pour les titres. Alors, ils étaient si potes que Ringo Starr a offert en 68 à Peter Sellers des bandes inédites du fameux album blanc des Beatles. Elles ont souvent été piratées, ces bandes, dans les années 70. Elles sortaient sous le titre de The Peter Sellers Tapes.
Là,
des vrais titres des Beatles qui avaient été offerts par Ringo Starr à Peter Sellers. Alors, on n'a pas le temps, hélas, mais il a aussi enregistré She Loves You, plein d'autres chansons. Une prochaine chronique, peut-être.
Bertrand Huskla, les Beatles, ça vous parle encore ou c'est vraiment une
autre dimension? Qui ça? George Martin? Le mec qui Game of Thrones?
Ce que j'ai failli dire quand j'ai vu.
Non, mais ce que je trouve super touchant, c'est l'espèce de soin apporté à la parodie extrême. Enfin, on entend quand même les chœurs, c'est absolument sublime. Ah, c'est le moment où ça casse. Et moi, je suis toujours impressionné par cette culture un peu anglo-saxonne de l'extrême et américaine et tout ça, d'extrême détail apporté à la parodie absolument parfaite. Je sais pas si c'est qu'une question de moyens ou aussi de soin apporté à ça. Je suis toujours assez fasciné et je vais pas dire que je me réclame de ça. Mais je suis très inspiré par ça à chaque fois.
Ben oui, et moi je tiens à dire que Brut et tout ce que vous faites, c'est extrêmement bien produit, avec peut-être des moyens qui sont peut-être pas énormes, je m'en rends pas bien compte, mais en tout cas c'est vraiment léché quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment.
En fait, c'est la grande chance de ce qui se passe un peu avec les réseaux sociaux, c'est que je pense que le Brut, le média original, ils ont à peu près autant de moyens que moi. C'est-à-dire rien. Oui. Donc c'est assez cool de parodier des trucs qui ont déjà rien parce qu'il est possible de le faire parce que là on peut mettre que du soin à. Donc je pense que Brut coûte un peu plus cher que Brut parce que nous c'est quand même de la fiction. Mais quelque part c'est un vrai plaisir de pouvoir se dire ah tiens je peux enfin parodier quelque chose. C'est comme parodier si je veux parodier cette émission de radio, c'est plus simple. Et le podcast d'ailleurs commence à s'en donner à cœur joie sur ces jeux de forme et je trouve ça très très intéressant parce qu'en fait c'est le peu de moyens économiques qui permet de parodier très très bien les choses.
Et parfois avec peu de moyens ça booste la créativité.
Ah, ouais, exactement. Avec clairement.
Ça. Ouais. Je sais pas si on a un bon exemple de ça mais faut bon. Ouais. Je le dis comme
super
ça.
Super créatif, les gars. Il y a Yuka.
Bertrand Huskla est avec nous. Ah, mais non, toi, t'as balancé le. Oui. Alors là, bon, on n'a pas non plus le meilleur réalisateur. Non, je t'embrasse, il était le meilleur. Le jeudi soir, alors qu'on peut déjà estimer que la semaine touche à sa fin, il y a deux profils. Ceux qui vont se la coller dans un afterwork avec leurs collègues. Et ceux qui vont passer leur soirée seuls devant MyCanal avec une tisane l'éléphant. Pour les premiers, on ne peut rien. Pour les seconds, on a Eva Rock, qui chaque soir vous guide dans la jungle des écrans, juste après une chanson dont le titre est d'ailleurs une phrase qu'a souvent entendue Eva. Désolé pour hier soir. Trio avec McFly et Carlito sur Europe 1. Désolé pour hier soir, c'était Trio avec McFly et Carlito sur Europe 1, que vous connaissez un peu, je crois, Bertrand Huskla. Vous faites partie du même gang 2.0, si j'ose dire.
Ouais, on a fait des petites blagues ensemble. J'ai pu les croiser à plusieurs reprises. Ils ont un truc incroyable où ils arrivent à s'intégrer dans toutes les idoles un peu de leur jeunesse. Et je trouve ça assez fascinant, moi, à regarder cette espèce de kiff qu'ils ont. Au fur et à mesure, faire des trucs avec Michael Youd, maintenant Trio, tout ça, ils font de la musique, ils s'en foutent. C'est quand même incroyable.
Une belle trajectoire.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Quand l'humour le plus leste fricote avec le journalisme le plus pointu, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures de rire, de découverte, mais également de bons conseils.
Écoute ta mère et mange ton short.
Notre invité le note, il s'agit du créateur de Brut que vous retrouvez également en ce moment dans la web-série d'Arte. Il est où Bertrand? Bertrand Huskla, vous êtes une star du
il
web.
Revient quand, il revient quand Bertrand?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Il est où Bertrand?
Ah oui, ouais,
Il est où Bertrand?
Il revient quand Bertrand? Évidemment, excellente série que vous retrouvez sur le site arte.tv. Vous avez une idée du nombre de vidéos auxquelles vous avez participé? Parce qu'il y a la qualité, mais alors la quantité est aussi au rendez-vous.
Hein. Eh ben, j'arrive pas à me dire. dire si c'est vraiment grand ou pas. Enfin, je pense pas. Comparé à ce que font les autres personnes sur Internet, nous, on est des créateurs qui ont poste pas grand chose en fait.
Bah quand même, il y a déjà 2 broutes par semaine, non ?
Ouais, mais depuis septembre, il y a des gens qui font genre 3 vidéos par jour depuis 10 ans, quoi. Donc c'est vrai que nous, on a un rythme, avec mon collectif Yes Vous Aime, on devait avoir un rythme de vidéos de publication de vidéos de 8 par an, ce qui n'était pas fou. Et c'est que depuis broute, en fait, ce que je disais tout à l'heure, en fait, que d'un coup, je me dis, bon, allez, je joue un peu le jeu de l'algorithme.
Alors Bertrand, quand vous ne tournez pas, est-ce que vous regardez parfois les écrans ? Est-ce que vous êtes un gros consommateur ?
Alors oui, mais alors là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé quelque chose.
Eh bien, figurez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais tous chaque soir 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint ou sa conjointe pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou MyCanal ou autre plateforme. Heureusement, Dieu a créé et sa rubrique précieuse. 17 minutes de gagner.
Je me suis lancée un peu un défi toute seule parce que je voulais vraiment vous faire découvrir. Je sais que vous en regardez beaucoup des séries. Donc, je voulais vraiment vous faire découvrir une série. Je me suis dit, peut-être qu'il la connaît pas, celle-là.
Black Mirror.
Non, quand même, n'exagérez pas.
C'est
une série assez loufoque, notamment grâce à ses dialogues hilarants.
Hi. Mitt navn Magnus Undredal. Jeg nok frest,
ah, okay, bon, là, c'est en norvégien. Bon, voilà. Mais c'est sous-titré. Et ça s'appelle Magnus, qui est un flic d'une bourgade norvégienne qu'on retrouve dans son lit un matin avec un drôle de robot à côté de lui.
Bonjour, mon nom est Magnus Undredal. Il paraît que je suis l'enquêteur le plus nul du poste de police de Frestad. Ça, c'est Dani, ma première invention. Mais sûrement pas la plus géniale. Sa seule fonction est de scanner la tête de quelqu'un pour savoir si c'est un homme ou une femme.
Vous êtes une femme.
Bonjour, Dani.
Femme. Vous êtes une femme.
Voilà 14 ans que je travaille sans relâche pour prouver que je suis un génie.
Et c'est pas du tout un génie, mais alors comment vous décrire cet ovni, alors qu'il est à voir sur le site mycanal.fr, et c'est que sur le site de Canal+. C'est une série policière, alors on parlait de Peter Sellers, mais c'est un peu ça, c'est le Peter Sellers norvégien, alors qui croise des trolls, des méchants américains, qui fait équipe avec un autre policier dont le projet de vie est quand même de se suicider, mais il y parvient jamais. Et puis un petit garçon d'une douzaine d'années, tête de turc des autres gamins, mais qui est très bon conducteur, parce que oui, dans cette série, un petit garçon de 11 ans a le droit de conduire sans que ça gêne qui que ce soit. C'est absolument mais hilarant. C'est vraiment la garantie d'éclat de rire, à supposer que vous soyez sensible quand même à l'humour second degré et à l'absurde.
Et
tout
norvégien.
Est incroyablement
et norvégien. C'est quand même beaucoup
mais
de conditions.
Tout est incroyable, mais vraiment au sens littéral du terme. C'est hilarant avec des acteurs parfaits qui ont un seul défaut, c'est leur nom et leur prénom qui sont imprononçables. Et donc je vais pas m'y coller du tout. Je vais même pas essayer. En revanche, essayez Magnus en version originale parce que c'est vraiment mieux. Et c'est sur mycanal.fr. Il y a 6 épisodes et j'ai ri du début jusqu'à la fin tellement je me demandais de ce que j'étais en train de regarder, mais c'est génial, franchement.
Oui, en même temps, vous riez à chacune de mes blagues, donc je sais pas si c'est une référence, votre humour. Mais enfin bon, merci.
Oh bah, j'espère pour vous quand même.
Je vous fais des bisous. Non, c'est un très bon choix, voilà. Vous m'avez vraiment donné envie de regarder aujourd'hui, je sais pas vous, Bertrand.
Mais en VO, regardez-le en VO, vraiment.
Ah, vraiment.
Parce
bah, oui,
que le côté norvégien amène un truc encore plus absurde.
17 minutes de gagner, c'était Eva Rock.
Europe 1.
C'est toujours une connie.
Allez, c'est bien.
C'est toujours une chronique très attendue dans l'émission. Bertrand Huskla, comme ça au débeauté, sans réfléchir. Si je vous dis Jérôme Lacroix, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est un nom de merde. Ce qui me va, hein, moi je suis habitué au nom de merde puisque bah, je m'appelle Bertrand.
De quoi mettre en confiance notre ultime concurrent du jour, notre expert sport Jérôme Lacroix, qui va nous parler du huis clos dans le sport, son origine, son application, son avenir. Ça a l'air super GG, mais faudra pas faire trop long hein, pour les auditeurs quand même.
On te sent les auditeurs.
Hein. Bien, à tout de suite.
Europe 1. 16h, 18h, l'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui est à l'infotainment, ce qu'un pogo est un concert d'ACDC. C'est-à-dire à la base, 2 heures d'une baston éditoriale entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 que vous départagez via Twitter sous l'égide d'un arbitre d'honneur. Aujourd'hui, c'est le comédien Bertrand Huskla qui nous offre généreusement son arbitrage.
Avec une petite commission de 15% parce que le chiffre vous met qu'on mange. Hein.
Bien sûr, tout ça a été dîné en amont. Alors Bertrand Huskla, vous êtes, on le rappelle, le créateur de Brut, cette alternative cocasse à Brut, en exclusivité pour Europe 1 cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous donner le thème du prochain Brut ?
Ça change tout le temps.
Comment ça change tout le temps ?
A priori, on devrait parler de confinement si j'arrive à le tourner, celui-là. Mais normalement, c'est un peu le sujet obligatoire. Quoi.
Ah oui, il y a des sujets comme ça qui sont un peu imposés par l'actu, notamment le coronavirus, j'imagine.
Je peux pas passer à côté. J'en avais fait un il y a deux, trois semaines, donc je voulais pas revenir trop vite dessus. Mais alors là, je pense on a un peu des trucs à dire maintenant. Mais c'est drôle parce que j'en ai un que j'ai tourné. Ils vont peut-être me flinguer à Canal si je dis ça, j'en sais rien. Mais en fait, il y a eu un truc, j'en avais fait un sur l'Italie. Et il y a eu une petite crise entre Groland et l'Italie.
Ah oui, c'est
Groland
vrai.
A sorti un sketch.
Effectivement, qu'elle est très vexée, l'Italie.
Je le trouvais très drôle, mais ouais, c'est des sensibilités, ça se discute pas. Et ça a été, c'est vraiment monté en échalote et on est
canadien. Monté en échalote,
ça n'existe pas.
C'est bien de rencontrer un jeune qui a des expressions encore plus ringardes que moi.
Se pas piquer les hanches, tout ça. Bon, et donc du coup, il y a dû avoir un peu des excuses de Canal vis-à-vis de ce sketch. Et moi, j'en avais fait un sur l'Italie qui était pas méchant, mais Canal a joué la carte politique de on va pas vexer quand même le pays, le copain à côté qui le prend vraiment très très mal. Donc du coup, je vais sans doute l'adapter. Le retourner, donc c'était un couple de Français qui était bloqué à Codogno en Italie, et peut-être que je vais les faire à Wuhan ou peut-être à Paris.
Hein, finalement, mais vous allez recycler.
Voilà, on va voir ce qui se passe demain. Il faut que je change quand même pas mal de trucs hein, pour taper la charpente et tout parce que ça tient plus. Hein.
Face à vous, Bertrand Huskla, un homme attend son heure. Expert sport d'Europe 1, Jérôme Lacroix est comme Icardi au PSG. On peut ne pas le voir pendant une heure et soudain, paf, il surgit. Méthode de l'attaque surprise qu'il pratique visiblement aussi dans son intimité avec Madame Lacroix qui doit se plier à un cérémonial très particulier lorsque Jérôme est en forme.
Je me cache, si tu me trouves, tu me fais ça, et si tu me trouves pas, je suis dans le placard, tout ça, tout ça.
Oui, certains huis clos sont plus embarrassants que d'autres. Parlez-nous plutôt, Jérôme, du huis clos dans le sport.
Très bonne méthode pour perdre du poids. C'était l'objet de la chronique.
Je comprends
jour-là.
Maintenant pourquoi vous êtes si fou.
Tout d'abord, écoutez cette ambiance.
Ça va.
Ah oui, c'est ça, pour leur match de foot en France. Alors, c'était pas hier, ça, c'était lundi soir à Lens, un match de Ligue 2 à huis clos. Des ballons qui claquent, des exclamations qui résonnent. Là, on vient d'entendre au moment où un but est inscrit.
Ah oui.
Voilà, on entend vraiment tout qui résonne contre le béton froid des tribunes vides. C'est le huis clos. Pas de spectateurs dans les tribunes, vous le savez, c'est lié bien sûr au coronavirus. Et en France, c'est jusqu'au 15 avril. Pour tous les événements sportifs. Alors, huis clos, ce terme qu'on entend beaucoup depuis près d'une semaine, top séquence, culture G, ce sera court. L'origine du terme, lui, c'est assez connu, hein, vient de l'ancien français qui veut dire porte, expression apparue au XVIe siècle. Au passage, le mot huissier,
voilà,
ça vient de là.
D'accord.
C'était la personne chargée d'ouvrir et de fermer la porte du cabinet du roi. Alors, retour en 2020, avec ce chiffre donc, qui donne le vertige concernant le sport. D'ici mi-avril, 450 manifestations sportives seront perturbées en France par la mesure contre le coronavirus. Ça représente 2 millions de spectateurs qui sont concernés. Et voilà que les clubs sportifs tremblent parce que perte estimée pour les clubs de foot professionnels français. On parlera aussi des autres sports, mais pour le foot français pro, c'est entre 50 et 100 millions d'euros de pertes selon les estimations. Rien qu'hier, pour PSG Dortmund, au Parc des Princes, 48 000 places vides, c'est environ 6 millions d'euros de pertes. Alors bien sûr, c'est une goutte d'eau pour le PSG, puisque le budget annuel, c'est 650 millions.
Une goutte de pétrole.
Mais, voilà, mais pour les autres clubs, alors pour le foot professionnel en France, la billetterie, c'est en moyenne 16% des revenus. Heureusement,
beaucoup,
les droits télé sont conservés, c'est 37%, ils sont conservés ces droits télé, puisque les événements, ils se tiennent et qui passent à la télé.
Oui, puis ceux qui ne peuvent plus rentrer au stade, ils vont être obligés de prendre l'abonnement. Et donc, comme ça, les droits télé vont augmenter encore.
Ah oui, oui.
Moi, je raisonne comme ça, vous savez, l'école de commerce aussi. Ouais. Pour le foot, perte limitée donc, mais c'est loin d'être le cas dans d'autres disciplines.
Au basket, un tiers des recettes des clubs, c'est la billetterie. Un exemple, Dijon, actuel 3e de première division, donc c'est pas rien, parle d'un préjudice pour le club bourguignon de 50 000 euros. Au rugby, la billetterie, c'est 13% des revenus, mais si jamais ces huis clos devaient durer, les clubs de première division pourraient perdre de 100 000 à 800 000 euros sur un seul match selon les clubs du top 14. Alors le rugby français, il se réunit lundi pour choisir. Huis clos, report, annulation, pour l'instant, ils n'ont pas encore tranché. Ou alors, il y a aussi la possibilité, c'est ce qu'a dit le ministre de la Santé dimanche dernier, de limiter l'assistance à 1000 personnes. Mais dans ces cas-là, imaginez comment on fait pour choisir ça, pour sélectionner les spectateurs.
C'est aux enchères les billets.
Ouais. Ah oui.
Que les plus riches. Pourquoi pas ? Ah oui, mais je me pose une question, Jérôme. Je me pose une question et je vous la pose. Je vous la pose directement. Les clubs ne sont pas assurés contre d'éventuelles annulations.
La problématique des annulations, c'est très intéressant, elle est complexe. C'est un papier du Monde qui soulignait ça cette semaine. Les organisateurs, ils partent du principe, alors ça je l'ai vraiment découvert, que leur événement ne sera jamais annulé. Alors non, ils ne souscrivent pas d'assurance annulation. Et sachez qu'il existe tout de même une clause maladie contagieuse, mais les clubs sont très rares à l'avoir rachetée, cette clause, pour que ici le manque à gagner lié à la perte billetterie dans le cas du coronavirus soit compensé. Alors pas de dédommagement des assurances, des régions, des collectivités territoriales, c'est possible, mais rien ne les y oblige, d'autant que là l'état de catastrophe naturelle ne peut être décrété. Alors il y avait un sélectionneur de la Colombie, de l'équipe de foot de Colombie dans les années 90 qui disait « On n'a jamais vu une tribune marquer un but », sa formule elle est souvent reprise dans ces cas-là. La seule vertu du huis clos, c'est des joueurs qui peut-être se tiennent un peu plus sages images, en paroles notamment, parce qu'on entend tout ce qui se dit. Alors ils le reconnaissent, hein, les joueurs qu'on a interrogés sur Europe 1 qui ont déjà joué à huis clos. Il y a moins de propos déplacés, parce que quand le public pousse...
Materazzi aurait fermé sa gueule, on aurait gagné la Coupe du Monde.
C'est possible, oui, exactement. Ça aurait résonné, hein, Zidane, peut-être sur Materazzi, on l'aurait bien entendu. C'est vrai que quand le public pousse, il siffle, par exemple, lors d'une faute, bah, les joueurs ils s'en servent pour influencer l'arbitre. Alors, en revanche, c'est potentiellement propice à de grands moments de solitude, les huis clos, comme lundi soir à Lens. Le speaker du stade, il a l'habitude, il a l'habitude au moment début, comme partout, de faire hurler à la foule le nom du buteur. Lui, il dit le prénom et il attend que la foule répète le nom. Écoutez, voilà, c'était sur Canal+. Écoutez,
speaker. Pour le Racing Club de Lens.
Bon.
Du numéro 7.
Bon.
Il rigole en son
Mais il s'est fait plaisir.
Ça
donne matière à sketch encore, c'est horrible.
Encore,
parce que
encore des sketchs sur le micro.
Il y a Bertrand qui est devant moi et à chaque fois qu'on parle d'un sujet, je me dis ça va faire un sketch chez
Brut. Vous allez vous voir vous-même, je vais vous interpréter en personnage.
Ça, j'ai hâte. J'aimerais bien que vous ne pourriez pas
non,
la prendre
non,
une
allez-y.
Fois pour faire une vidéo.
Mathieu.
Eva, juste
ouais.
ça, ça va pas. Parce que vous savez, c'est une très bonne actrice. Elle a interprété ici même des rôles.
Ouais, c'est ça.
Je vous ferai écouter le bout d'essai. C'était très, très, très intéressant. En tout cas, merci Jérôme pour cette excellente chronique. Vous vaudra-t-elle les 3 points? Ça, seul l'avenir nous le dira.
Europe 1.
Se cultiver, c'est une chose, mais comme disait Maïté, faudrait pas oublier de bouffer. La question va donc rapidement se poser, qu'est-ce qu'on va se mettre de bon sous la dent ce soir? Bertrand, une idée?
C'est ma bite, Une autre idée alors.
Celle d'Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Enfin, je veux dire, l'idée d'Olivier Pouls, notre expert gastronomique qui chaque soir nous propose une recette de dernière minute.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h-18h. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
4 journalistes, une seule couronne de chroniqueurs du jour. Le stress envahit nos compétiteurs, d'autant que durant la coupure pub, Bertrand Huskla, notre invité, leur a mis un sacré coup de pression.
Vos putains d'anecdotes de discothèques de province, vous les gardez quand vous allez draguer sur vos putains de congés payés, mais au boulot, vous faites votre boulot.
Bertrand Huskla, vous déclariez en 2019 « La parodie que je fais n'a rien de génial en soi, c'est ce qu'ont fait beaucoup de parodies de journaux télé auparavant, sauf que les journaux télé d'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Vous êtes les inconnus 2.0, en somme.
» Alors, j'adorerais, vraiment, mais je ne sais pas si je peux me réclamer des inconnus, mais enfin, en tout cas, il y a une vraie
c'est
filiation.
C'est votre culture, en tout cas.
Moi, c'est ce que je regardais énormément, et même par la formation de Didier Bourdon, on a fait la même école, donc ce même... se mettre le jeu au service d'une extrême stupidité, ça c'est un truc moi qui me touche vraiment. Et ouais, après en termes d'inventer quelque chose, non j'ai rien inventé, j'ai juste fait ça en format carré en fait. Brut, c'est en format carré pour être sur le téléphone, mais sinon ouais,
vous êtes trop modeste.
Voilà, c'est la nouvelle télé en fait. Donc il y a un vrai questionnement sur en fait en termes d'art, comment est-ce qu'on trouve un bon format, comment, et ça j'ai vraiment beaucoup réfléchi à force de consommer des réseaux sociaux. Finalement j'ai un peu l'impression d'être un artiste qui a fait une école de commerce dans le résultat des
et
trucs.
Qui a benchmarké tout,
qui a
tout le bon truc
et tout. Alors pas forcément consciemment, mais quand je me retourne je me dis ouais c'est malin.
C'est habile, finalement, cette stratégie. Vous êtes sollicité par le cinéma, par d'autres médias depuis le succès de Brut?
Pour ma réputation, je devrais dire oui. par honnêteté, je vais dire non. Voilà. Non.
Ça me paraît très étonnant.
Non, ça commence. Oh, non,
ça réalité, commence, c'est des petites touches.
Ça commence un peu, mais c'est bizarre. C'est un truc qui me faisait rêver avant le cinéma. Ouais. On pouvait faire plein de choses, raconter de belles histoires, à toucher des comédiennes aussi, apparemment. Donc, je
sais pas ce qu'il faut faire.
Mais maintenant, ça fait de moins en moins rêver parce que je commence vraiment. Enfin, moi, je m'éclate avec ce format. J'ai des envies un peu de seul en scène.
Donc, et vous êtes peut-être plus libre en seul en scène et dans des formats comme Brut que dans un film.
C'est un petit peu ça, en fait. Donc, je peux un peu m'amuser. Je commence un peu à avoir les moyens de créer des trucs et c'est assez confortable, en fait.
Mais d'ailleurs, il y a un seul en scène qui se prépare.
Bah, ça arrive tout doucement. J'ai encore des traces de sueur de mes scènes ouvertes d'hier soir. C'est drôle, vraiment.
Ah, vous commencez à tester un peu?
Ouais, j'ai commencé à tester maintenant il y a 2-3 semaines au Barbès Comedy Club, au Topito Comedy Night, tous ces trucs qui jusqu'à présent moi, étaient des trucs que je voyais un peu passer de loin. Et je m'y mets et je trouve ça pire que le saut à l'élastique. Je comprends pas pourquoi les gens s'infligent ça. Je commence à le faire.
Bah,
ça commence à prendre. Ouais, parce que je sais pas, c'est parce que c'est idiot en fait. Et je comprends en fait l'espèce d'idiotie, d'autoflagellation, d'aller s'humilier sur scène pour arriver à un diamant poli, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me cherche encore, je sais pas très bien ce que je veux faire. Il y a une espèce de mélange de stand-up, de chansons, beaucoup, que j'aime faire, où je m'accompagne à la guitare, et des jeux de forme, beaucoup.
Des jeux de forme?
Ouais, en fait, il y a un humoriste américain qui s'appelle Bo Burnham. Encore une fois, je me dis pas que je me réclame de lui, mais c'est vraiment le déclic où je me suis dit, ah, en fait, il est possible de faire ça. Il joue des codes du stand-up pour ensuite... en faire une forme qui n'est pas du stand-up. Il le rappelle sans arrêt et je trouve qu'il y a une réflexion parodique en réalité.
Attendez,
parodique,
j'appelle quand même Copy Comique pour être sûr.
Non, je le dis, j'ai plagié.
Pour vérifier.
Je fais de défense Gad Elmaleh, je dis oui, bah voilà. Ouais, voilà.
C'est un hommage.
C'est un hommage.
Oui. Dans une de vos vidéos, vous imaginez des légumes réalisés à partir de viande.
À la base, c'est un ami végan. Il m'a fait manger un steak et à la fin, il m'a dit « Ah, je t'ai bien eu, c'était du pois chiche. » Bon, j'ai fait la même chose. J'ai fait bouffer une ratatouille, pour la fin, je lui ai dit « C'est la tête de veau.
» Vous savez que ça existe ? Anissa Mbida nous en a parlé.
Et oui, c'était une carotte en dinde.
J'ai vu ça.
Alors voilà. Alors justement, Bertrand, à l'heure où nos estomacs commencent à se manifester par différents couinements, il est temps de se pencher sur le dîner de ce soir. Un dîner qui, hélas, ne va pas se faire tout seul. Pour nous aider, une véritable force de la nature qui traverse des moments difficiles. Il est avec nous, mais à distance, derrière un cordon de sécurité, pour raisons sanitaires. On croit fort à sa rémission. Il a survécu à des orgies de côtes de bœuf maturées, à des marathons de tartiflettes. Il a survécu surtout à mon risotto vénitien. Alors ce n'est pas un petit coronavirus ou nez qui va avoir raison de lui. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu.
Non, vous en voulez encore.
Non, mais c'était pas le coronavirus. Rassurez tout le monde.
Bien sûr, regardez, là, je suis là avec vous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'après 4 jours confinés chez moi de force, j'ai eu quand même le temps d'examiner tout ce qu'on pouvait faire avec des restes, avec ce qu'on a dans les placards, parce que bien évidemment j'avais fait les courses avant de tomber malade, mais j'avais pas prévu assez, j'avais tout mangé. Quand je suis réellement tombé malade, ben manque de peau, il n'y avait plus grand chose. Donc
qu'est-ce que vous avez concocté?
Lundi, des restes de fromage, je vous ai donné la recette. Mardi, des restes de viande avec bouillade. Hier,
c'est
des restes de pommes
semaine,
et de poires.
C'est votre plus belle semaine, Olivier.
Et alors aujourd'hui, une boîte de maïs, parce que quand vraiment il y avait plus rien, il restait une boîte de maïs. Et je vous garantis que c'est vrai, la recette que je vais vous donner, non seulement je l'ai faite, mais en plus, elle était bonne.
Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire avec une boîte de maïs?
Bah oui, vous allez voir. Donc prenez votre seule et unique boîte de maïs qui reste pauvrement dans votre placard, et vous faites une petite sauce amusante à base de mayonnaise, d'une cuillère de crème fraîche, d'épices. Alors là, j'ai ouvert mon placard à épices, j'ai trouvé du paprika et du curry, j'ai mis ça dedans. J'avais heureusement encore une petite échalote qui restait, que j'ai ciselée tout finement, que j'ai rajouté là-dedans. J'avais un petit jus de citron, le petit jus de citron dans tout ça, et j'ai mélangé avec le maïs que j'avais préalablement égoutté, et ça donne une espèce de petite salade maïs, curry, crème mayo, qui est vraiment délicieuse. Et si par hasard, il vous reste quelques herbes, coriandre ou persil, etc., vous finissez, et honnêtement, vous passez pas un mauvais moment, tout seul, chez vous, reclus, dans votre cuisine. Face à la boîte de maïs.
Olivier Pouls, la recette survivaliste du jour. Merci Olivier, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants.
Oui, c'est pas la peine de tous vous jeter sur les boîtes de maïs dans les grandes surfaces. Oui. Il y en aura pour tout le monde. Hein. Ouais. Soyez-en tranquilles.
Oui. N'encourageons pas les gens à la panique. Même si je sais qu'Eva a déjà rempli son caddie. Merci Olivier Pouls.
Vous voulez vraiment qu'on en parle ou pas?
Non.
D'accord.
C'était délice in extremis avec les fromages Hermitage. Rajoutez de la convivialité à votre recette. Les fromages Hermitage, du goût, du partage. Europe 1.
Quand 18h approche et que cette musique retentit, nos cœurs se serrent, notre pouce s'emballe et même l'invité sait ce que ça signifie.
18h, c'est l'heure de l'afterwork. Santé les amis.
Non Bertrand, n'oubliez pas la dernière étape avant l'afterwork. Le moment des règlements de compte entre collègues. Qui sera désigné employé du jour? La grande finale arrive.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Une nouvelle édition de l'équipe est sauvage touche à sa fin. Une fois de plus, à l'issue de ces 2 heures, l'autosatisfaction est de mise. Une fois de plus, nous avons su combiner infos de première qualité, regard décalé sur le monde, drôlerie de chaque instant. Et une fois de plus, nous avons su accueillir un invité d'honneur dans des conditions optimales. Café, petit four, champagne, on peut le dire Eva. Bertrand Huskla a été reçu comme un roi.
J'ai pas assez pour payer la prostituée.
Oh, ça c'est pas grave, bien sûr, on fera moite-moite. L'heure est venue, en tout cas, d'élire notre chroniqueur du jour. C'est le moment du qui tout double. Ils ont chacun 10 secondes pour vous convaincre. Jérôme Lacroix, pourquoi Bertrand Huskla devrait-il voter pour vous?
Je vous ai parlé des événements sportifs qui se déroulent à huis clos dans des stades vides. S'il vous plaît, ne choisissez pas ces coquilles vides d'autres chroniques.
C'est mesquin.
Mais il y a du jeu de mots. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous?
Parce que mon vrai métier, c'est d'être sur la matinale d'Europe 1, parce que je suis bien gentil de rester tard l'après-midi pour vous, Mathieu Noël, malgré mon grand âge, que vous ne manquiez pas de rappeler régulièrement.
Je le souligne souvent, c'est vrai.
Et puis parce que je vous ai peut-être donné envie de prendre des photos de votre famille. Tout simplement.
Oh, Et ça, c'est pas mignon. Ouais. Merci Jean-Philippe Ballas. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous ce soir?
Parce que face au coronavirus, face au stade vide, face au placard vide où il ne reste que le maïs, eh ben, y a le yucca, il y a les arbres qui nous donneront du bonheur et qui vont nous déstresser.
On rappelle votre sujet, c'est-à-dire qu'il faut les shooter en forêt. Enfin, voilà.
Il fallait faire un shoot de forêt
en se baladant dans la forêt.
Et ça rend plus performant.
N'interprétez pas mal mes propos. Fred Goetti, pourquoi voter pour vous?
Eh bien, cher Bertrand Hustle, comme ça, il n'entendra plus jamais les chansons des Beatles de la même manière. Il a découvert les parodies extraordinaires de Peter Sellers. Donc, si vous pouviez glisser ce petit bulletin dans l'urne, je vous le donne.
C'est vrai. Il faut préparer son bulletin.
Je le prends, je vous le passe. Hein. Voilà. Merci beaucoup.
Un bulletin de vote pour vous?
Carrément, oui.
Il y a la production, quoi.
Waouh.
Ah ouais.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
C'est Jean-Philippe Ballas qui a son fan club qui gagne les deux points.
Que dire? C'est Jean-Philippe Ballas qui a son fan club ou qui a fait un bon sujet? Vous le dévalorisez, Eva,
quelque
part.
Non, je ne le dévalorise pas. Il a un fan club sur Twitter. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas sur Twitter, vous ne pouvez pas comprendre.
Je ne peux pas comprendre. Et je donne mes points, enfin mon point, puisque je n'en ai qu'un aujourd'hui. C'est vraiment très serré, mais c'est Fred Goetti qui va l'emporter. Parce que je ne connaissais pas Peter Sellers, chanteur. Ces parodies musicales m'ont plu. Je vais les télécharger. On les trouve, est-ce que pour nos auditeurs, on les trouve sur Deezer, sur Spotify ou il faut vous appeler directement?
Je vous les copierai personnellement.
Voilà.
Ah oui.
Oh là là.
Ça fait plaisir.
Et moi, je vous donnerai le numéro de téléphone de Mathieu Noël, le portable. Comme ça, vous les redonnerez.
C'est ça,
ensuite.
Mais vous n'avez pas le bon, je ne vous ai jamais donné le vrai. Vous le savez ici, c'est à l'invité que revient la lourde responsabilité de trancher. Bertrand Huskla, qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour?
Eh bien écoutez, moi ça m'a rappelé des souvenirs. Je me souviens que quand mon grand frère a quitté ma maison, ma mère a énormément pleuré et c'est marqué en moi. Après quand c'est moi qui a quitté la maison, c'est elle qui a appelé le Uber van. Et rien pour ça, je vais nommer Jean-Philippe Ballas.
Et c'est donc Jean-Philippe Ballas qui remporte la 132e journée de l'équipée sauvage. On remercie notre invité, l'excellent Bertrand Huskla, à découvrir dans Brout sur YouTube et dans Il revient quand Bertrand sur le site d'Arte. Merci beaucoup Bertrand.
Merci pour votre accueil, c'était super.
Une découverte, j'espère, pour nos auditeurs aussi. Ouais. Merci également à mes équipiers du jour, hein, Eva Roch, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas, Fred Goetti, Jérôme Lacroix, Henri Delaguéry et Olivier Pouls. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous. Retour de votre équipe sauvage dès demain 16h. Vous serez en public et vous recevrez Mela Bédia et Alison Miller. À demain Mathieu, salut à vous.